La porteuse de pain, deuxième partie, chapitre 31 à 35. Ovide parcourut environ 200 mètres ainsi, encadré à droite et à gauche par des clôtures, puis, près d'un autre passage à niveau, atteignit un endroit où ses murailles cessaient brusquement. À sa gauche s'étalait une vaste plaine semée çà et là de bouquets de bois. Ainsi, d'un côté la haie d'épines, de l'autre des terres labourées en pleine culture. En avant, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, de grands arbres dominant une route. Cette route était celle de Paris à Argenteuil. Le Dijonnais continua de marcher avec lenteur, examinant attentivement chaque chose et suivant toujours le sentier qui côtoyait le chemin de fer. Il lui restait environ 500 mètres à parcourir pour arriver à la chaussée que bordait un certain nombre de maisons, enfouies dans des massifs de végétation, étalant au soleil leurs bourgeons naissants d'un vert pâle. À moitié chemin, sur la gauche, se voyait une agglomération d'une trentaine de peupliers croissant dans un fourré d'épines, de chênes rabougris et de plantes parasites. Arrivé en face de ce diminutif de petits bois, Ovide fit halte et sonda du regard l'épaisseur du fourré. Tout à côté s'amorçait un sentier s'enfonçant dans la plaine. Ovide prit ce sentier, fit le tour du bouquet d'arbres, l'étudia sous toutes ses faces, puis revint à son point de départ et continua de marcher jusqu'au talus, en contre-haut de la chaussée, à laquelle on arrivait par un escalier taillé dans la terre battue et un peu plus loin par une pente douce. Le Dijonnais gravit l'escalier et se trouva tout près du pont du chemin de fer. À quelques pas de ce pont se voyait un établissement de marchands de vin traiteurs. « Ce mastroquet doit fermer sa boîte à la tombée de la nuit », se dit le complice de Paul Armand. Il traversa le pont sans s'arrêter, et d'un pas toujours paisible, régulier, gagna Colombes, se dirigea vers la gare et prit le premier train montant vers Paris. Rentré chez lui, il revêtit sa tenue de vieil amateur du beau sexe et se mit en mesure d'aller attendre Mademoiselle Amanda à sa sortie de chez Madame Augustine à 8 heures du soir. Tout ce que nous venons de raconter s'était passé le jeudi. Le lendemain, à 1 heure et demie, Lucie sortait de chez elle, tenant à la main un paquet volumineux mais léger, montait dans un fiacre et se faisait mener à la gare Saint-Lazare. À 2 heures moins un quart, elle prenait le train qui la descendait à Bois-Colombes. Fidèle à sa promesse faite à Amanda pour Madame Augustine, la jeune fille allait à la garenne de Colombes essayer à la femme du maire la robe de bal qui devait le lendemain éblouir les invités du préfet de la Seine. Les précautions indispensables pour ne point chiffonner la soyeuse étoffe du vêtement enveloppée d'une lustrine, ralentissait sa marche. Elle suivit la route que nous avons vue Ovide Soliveau parcourir la veille, traversa la voie du chemin de fer de Versailles et s'engagea dans le petit sentier que nous connaissons. Un radieux soleil brillait dans un ciel sans nuages. Lucie n'avait pas peur, quoique le chemin fût complètement désert. Arrivée à l'endroit où cessaient les murs d'enceinte et où la plaine se déroulait à gauche, elle vit des paysans travailler la terre, le dos courbé sous les rayons déjà chauds. En face du bouquet d'arbres, objet la veille du minutieux examen d'Ovide, Lucie fit un mouvement de surprise en poussant un petit cri étouffé. Sur l'herbe, au pied des peupliers, un homme étendu tout de son long, ses mains croisées sous le menton supportant sa tête, dormait ou paraissait dormir. Cet homme ne sembla point s'éveiller. Lucie passa en se disant tout bas. « Que je suis bête! J'ai eu peur d'un pauvre diable fatigué qui se repose. » Et elle se remit en marche. À peine avait-elle parcouru un espace de 20 pas que le dormeur ouvrit les yeux, suivit du regard pendant un instant la jeune fille, et de nouveau abaissant ses paupières, sembla plus endormi que jamais. 3 heures sonnaient au moment où une femme de chambre introduisit la fiancée de Lucien Labroux auprès de la femme du magistrat municipal. Celle-ci était une grande et forte commère, point du tout belle, assez épaisse et qui cependant s'adonnait avec délices à la coquetterie et se croyait de tournure superlativement élégante.
« Je vous félicite de votre exactitude, mademoiselle, » dit-elle d'un ton presque gracieux. « Vous venez pour l'essayage ?»«
Oui, madame. »«
Eh bien, je suis prête. Je n'ai qu'à ôter mon peignoir. » Ce qui fut fait aussitôt.
Lucie se mit en devoir de passer la robe à la cliente de madame Augustine, cliente fort difficile à habiller, trouvant toujours que tout allait mal, exigeant des changements sans fin et des retouches interminables. Lucie épingla, changea, retoucha avec une inépuisable complaisance, et au bout de 3/4 d'heure, elle fut prête à repartir, après avoir noté dans sa mémoire les recommandations pressantes et les observations minutieuses de madame la mairesse.
« Vous savez, mademoiselle, dit celle-ci, qu'il me faut cette robe demain soir. »«
Je le sais, oui, madame. »«
À 9 heures au plus tard. »«
Oui, madame, je suis prévenue.
Vous ne me ferez point attendre, n'est-ce pas ?»«
Madame peut compter sur mon exactitude. »«
Vous apporterez, comme la dernière fois, tout ce qui sera nécessaire pour opérer les dernières retouches. » Et vous assisterez à ma toilette. J'y tiens. Vous saurez mieux que ma femme de chambre attachait sur le corsage et la jupe les garnitures de fleurs naturelles que mon fleuriste enverra dans la journée.
Bien, madame.
À demain, mademoiselle.
Lucie, forte satisfaite d'être enfin débarrassée d'une besogne ennuyeuse, poussa un soupir de soulagement, quitta la maison et reprit la route qu'elle avait suivie pour venir. En arrivant près du bosquet d'arbres, elle constata que l'homme endormi était toujours là. Mais cette fois, elle n'éprouva pas la moindre frayeur et passa rapidement. Lorsqu'elle eut fait une 30aine de pas, le singulier dormeur recommença le manège que nous avons signalé lors du premier passage, c'est-à-dire que soulevant sa tête sur ses mains croisées, il ouvrit les yeux et du regard suivit longtemps Lucie. Lorsqu'elle fut entrée dans la partie du sentier encaissée entre les baies d'épines et les murailles de clôture, l'homme s'assura d'un coup d'œil circulaire que personne ne s'approchait, et lentement, par une succession de petits mouvements, rampa jusqu'au bouquet d'arbres, où il disparut parmi les arbustes rosés des broussailles. Là, il se dressa, écarta les touffes d'herbes desséchées, et en retira une minuscule valise qu'il ouvrit. Elle contenait un veston, un pardessus, un chapeau gibus. Se débarrassant alors de sa blouse de toile, de sa cotte, de la mauvaise casquette qui couvrait sa perruque rousse, l'homme revêtit les vêtements extraits de la valise, et Olive Soliveau, que nos lecteurs ont déjà deviné, apparut sous sa forme naturelle. La défroque d'ouvrier reprit alors dans la valise la place du costume de citadin. Le Dijonnais se coiffa du chapeau gibus, sortit du massif d'arbres, et suivit le sentier qui, coupant à travers la campagne, se greffait sur la route de Paris. « Amanda m'a bien renseignée, » pensait-il. « C'est parfaitement le chemin que Lucie devait prendre et qu'elle prendra demain soir. »« Par malheur, elle ne sera pas seule. C'est ennuyeux. Je n'y puis rien. Tant pis pour Amanda. » Arrivé sur la route, Ovide s'approcha d'une voiture qui stationnait le long d'un des bas-côtés. Le cocher dormait. Soliveau le réveilla.
« J'ai été plus longtemps que je ne le croyais, mon brave, » lui dit-il. « C'est votre affaire, puisque je marche à l'heure hors barrière. » répliqua le cocher.
« Il est 5 heures, » ajouta-t-il en tirant sa montre.
« Où allons-nous présentement ?»«
À Courbevoie. »«
Quel endroit de Courbevoie ?»«
Quai d'Anières. »«
Montez !»
Ovide s'installa sur les coussins, la voiture partit, et 3/4 d'heure plus tard, elle faisait halte au commencement du quai d'Anières.
« Quel numéro ?» demanda le cocher. « Je l'ignore, restez là. Je vous rejoindrai dans quelques minutes, car je n'en ai pas pour longtemps. »
« Suffit !» Le voyageur descendit du fiacre, se dirigea vers l'usine de Paul Armand, et s'adressant au concierge, lui dit qu'il désirait parler au constructeur lui-même. Le concierge l'envoya au bureau que nous connaissons. Ovide avait écrit d'avance 2 lignes placées sous une enveloppe fermée à la gomme. Il fit remettre cette enveloppe au pseudo Paul Armand, qui, se trouvant seul, donna l'ordre de l'introduire sans le moindre retard, et quand la porte se fut refermée derrière lui, demanda vivement.
« Qui t'amène ?»«
On ne peut rien entendre de ce qui se dit ici, »
murmura Soliveau d'une voix très basse.
« Non, tu peux parler. Est-ce qu'il y a du nouveau ?»«
Il y en a. »«
Quoi ?»«
C'est pour demain. » La signification de cette phrase si simple était claire et terrible.
Jacques Garot devint pâle et frissonna de la tête aux pieds.
« Pour demain ? » répéta-t-il.
« Oui, et dans les conditions les moins compromettantes. Des conditions tout à fait de premier ordre.
Explique-toi.
C'est ce que je vais faire. » Ovide raconta par le menu ce que nos lecteurs savent déjà et détailla son plan.
« Eh bien, qu'en penses-tu » dit-il en achevant.
« Je pense, » répliqua le millionnaire en essuyant son front mouillé de sueur, « je pense qu'en effet la chose sera mise sur le compte de quelques rôdeurs de barrières, et que l'idée de nous soupçonner ne pourra venir à personne au monde. Tu es un adroit compère. »«
Oui, oui, je suis assez malin. Travailler pour toi, pour un véritable ami, pour un bon zig, ça m'inspire.
Je ne te marchanderai pas ma reconnaissance.
Parbleu, j'y compte.
Quand tout sera fini et que Lucien Labroux aura épousé ma petite cousine, tu me devras une fière chandelle.
As-tu besoin de moi ?
Oui, c'est même pour cela que je suis venu te trouver.
Que dois-je faire ?
Prétexter un travail pressé qui te retienne ici demain soir jusqu'à 1 heure avancée de la nuit.
C'est facile.
Ensuite, me donner le moyen d'entrer dans l'usine et d'arriver auprès de toi sans avoir besoin de me faire ouvrir et de montrer ma binette au portier.
Facile encore. Je vais te remettre une clé de la petite porte de l'usine.
Après ? Avoir ta voiture attelée pour me reconduire ventre à terre à Paris et faire en sorte de laisser croire à tout le monde que nous avons passé la soirée à travailler ensemble. C'est un simple et pur alibi que je prépare en cas de besoin.
« La chose ira de soi, » répondit le millionnaire.
« Peux-tu venir à 6 heures du soir ?»«
Oui,
je t'attendrai et nous dînerons ici même, dans mon cabinet.
Il est essentiel que je sois là-bas à 8h30.
Nous dînerons vite. Je congédierai l'homme qui nous aura servi. Nous resterons seuls et tu sortiras par une petite porte de derrière. Une fois dehors, tu prendras la route de Paris à Argenteuil pour aller à Bois-Colombes. Tu rentreras par la même porte. Ma voiture stationnera sur le quai, prête à partir. Naturellement, on croira que nous ne nous sommes point quittés.
Excellente combinaison.
Ces précautions, d'ailleurs, ne sont qu'un surcroît de prudence, car il est évident que nous ne pouvons avoir rien à craindre. Je serai ici demain soir à 6 heures précises. Fais-moi le plaisir de mettre en lieu sur cette valise.
« Que contient-elle ? » demanda Paul Armand en prenant l'objet que lui tendait Ovide.
« Le travestissement dont je me suis servi aujourd'hui pour mener à bien mes observations et dont je me servirai de nouveau demain. »«
Je vais la faire disparaître. »
Le millionnaire tira de sa poche un trousseau de clés, ouvrit un placard situé dans une encoignure de son cabinet, y serra la valise qu'il enferma à double tour et poursuivit.
« Que fais-tu maintenant ? »
« Je retourne à Paris. »
« Par le tramway ?»«
Non, j'ai une voiture à l'heure. »
« Pour mener à bien les affaires, je ne regarde à aucune dépense. »
« Tu as raison. Va, et à demain. »
Les deux misérables se séparèrent.
Jacques Garot se frotta les mains. Une expression de joie farouche rayonnait sur son visage.
« Demain, murmura-t-il, l'obstacle sera brisé. Le lien sera rompu.
Lucien Labroux, après quelques larmes données à sa maîtresse et quelques jours de deuil, n'aura plus qu'à s'abandonner à son heureuse chance et à répondre à l'amour de Mary.
Décidément, Ovide est un homme précieux. Il me coûtera cher, mais qu'importe. Pour assurer le bonheur de ma fille, je donnerai ma fortune. Je donnerai ma vie. »
À 8 heures précises, Soliveau, sous son pseudonyme d'Arnold de Reis, attendait Mademoiselle Amanda, non loin des ateliers de Madame Augustine. La jeune fille vint le rejoindre d'un air affairé.
Ovide, à qui sa préoccupation ne pouvait échapper, lui demanda
« Qu'y a-t-il donc ?»«
Une corvée. Nous dînerons quand nous pourrons. Il faut que je prenne une voiture et que je me fasse trimballer au quai Bourbon pour savoir si Lucie est allée à Bois-Colombes. »
Il eût été facile à Ovide de répondre à l'essayeuse de façon affirmative, mais il avait pour s'abstenir de puissantes raisons et se garda bien de souffler mot.
« Je vais vous accompagner, ma belle poulette, » fit-il.
« Mettons-nous à la recherche d'un fiacre. Nous irons ensuite dîner au restaurant de la Tour d'Argent, qui n'est pas loin du quai Bourbon. » En passant pour la seconde fois auprès du dormeur couché près du bouquet d'arbres dont nous avons expliqué la position à nos lecteurs, Lucie, nous le répétons, n'avait éprouvé ni surprise ni frayeur, et elle avait continué son chemin sans tourner la tête. Elle regarda sa montre. Il ne lui restait que 10 minutes pour arriver à la gare et prendre le premier train montant vers Paris. Quoique fort embarrassée par son paquet, elle hâta le pas. Bientôt, elle disparut aux yeux du guetteur entre la haie d'épines et les murailles de clôture des propriétés particulières. La jeune fille suivait ce sentier depuis 2 ou 3 minutes quand elle s'arrêta en poussant une exclamation de surprise et de joie. Elle se trouvait face à face avec Maman Lison et celle-ci ne se montra pas moins étonnée que Lucie.
« En voilà un hasard !» s'écria-t-elle. « Chère mignonne, d'où venez-vous donc ?»
La fiancée de Lucien expliqua le but de son voyage, puis elle ajouta « Mais vous, Maman Lison, vous suivez la route qui conduit à la Garenne de Colombes ? Et je ne sache pas que vous ayez l'habitude d'y porter du pain tous les jours. Votre tournée serait un peu longue. »
« Oui, mignonne, c'est la première fois que je viens ici. Aussi, je suis fort embarrassée et j'ai grand peur de me perdre.
Où allez-vous ?
À la Garenne de Colombes, route de Paris, numéro 41.
Vous êtes bien sur le chemin ? Mais arrivé à la route, vous serez obligé de redescendre un peu, à moins que vous ne preniez un petit sentier à gauche qui coupe à travers champs et qui vous abrégerait.
Merci, mignonne. Je prendrai le sentier, car il faut que j'arrive vite.
Qu'allez-vous faire à la Garenne, Maman Lison ?
Trouver la mère de Madame Lebray, ma patronne.
Est-ce qu'elle va plus mal, votre patronne ?
Toujours la même chose. Bien mal, bien mal. Et elle a envie de voir sa mère.
Depuis un an, Monsieur Lebray est fâché avec la vieille dame, rapport à des affaires d'intérêt, et il lui a interdit l'entrée de la maison. La patronne n'ose point demander à son mari de lui écrire. Elle m'envoie près d'elle pour la prier d'oublier les discussions passées, les querelles, les rancunes, et de venir l'embrasser sur son lit de souffrance.
C'est dommage que je sois si pressée, Maman Lison. Je vous aurais attendue. Mais c'est impossible. J'ai une robe à terminer pour demain. Je dois même revenir la porter à la Garenne à 9 heures du soir, ce qui n'est pas gai.
Eh bien, mignonne, embrassons-nous et retournez à votre ouvrage. Moi, je vais faire ma commission.
La vieille femme et la jeune fille s'embrassèrent et Lucie courut vers la gare, mais elle eut beau courir, elle manqua le train de 3 heures et demie et dut attendre celui de 4 heures. À 4 heures et demie, elle était à Paris. Elle prit une voiture et se fit conduire non au quai Bourbon, mais à la rue de l'Hôtel de Ville. Elle monta au 3e étage d'une maison d'honnête apparence et sonna à une porte sur laquelle se trouvait un écusson portant ce mot en grosses lettres.
« Robe ».
La personne qui vint lui ouvrir était une jeune femme de 25 ans environ.
« Tiens, Lucie !» s'écria cette jeune femme en faisant entrer la visiteuse dans une chambre modeste. « Quel bon vent t'amène !»«
Une question est adressée, ma chère Antoinette. As-tu beaucoup d'ouvrages en ce moment ?»
Je voudrais bien pouvoir te répondre oui, mais la vérité est que ça ne va pas. Je n'ai absolument rien à faire.
Alors, reprit Lucie, tu peux me donner un coup de main ?
Bien volontiers, fit Antoinette. Il s'agit de m'aider à finir une robe de bal que je dois livrer demain soir à 9 heures. Je suis à ta disposition. Je te préviens qu'il faudra passer la nuit. Ce ne sera pas la première fois. Nous dînerons ensemble et je préparerai du café très fort pour nous empêcher de dormir. Prends ton chapeau et filons, j'ai une voiture en bas.
Le temps de mettre un pardessus et un chapeau. 2 minutes plus tard, Lucie et Antoinette montaient en fiacre et roulaient vers le quai Bourbon. Maman Lison, en quittant la jeune fille sur le chemin conduisant de Bois-Colombes à la Garenne de Colombes, avait hâté le pas pour rattraper le temps employé à la causerie dont nous avons été témoins. Tout en suivant le chemin bordé par la haie d'épines, elle cherchait du regard le sentier indiqué par Lucie et qui devait la mener directement au but de son voyage. En arrivant au bouquet d'arbres, près duquel Ovide, quelques instants auparavant, feignait de dormir, elle aperçut ce sentier et vit marcher au loin devant elle un homme vêtu en bourgeois, portant à la main une valise. Ce doit être ce chemin-là, se dit-elle en s'y engageant sans hésiter. Quelques instants après, elle débouchait sur la route de Paris. En face d'elle se trouvait une petite propriété dont les murailles de clôture étaient garnies de vignes vierges et de lierre. Une plaque fixée sur un des poteaux de l'entrée portait le chiffre 41. « C'est là, » murmura Jeanne Fortier en traversant la route. Le corps de bâtiment se trouvait au fond d'un jardinet planté de légumes et d'arbres fruitiers. Jeanne agita la chaînette de la cloche
et bientôt apparut une vieille servante paysanne qui, d'un air soupçonneux, accueillit la visiteuse par ces mots.
« Qu'est-ce que vous demandez ?»«
Je voudrais parler à Madame Lebel. »
« De quelle part ?»«
De la part de sa fille, Madame Lebray, maîtresse boulangère, rue Dauphine. »«
Venez avec moi. »
La servante conduisit Jeanne Fortier jusqu'à la maison, l'introduisit dans une pièce du rez-de-chaussée où se trouvait Madame Lebel, volumineuse femme de 60 et quelques années, et dit
« Madame, voici une personne qui vient de la part de Madame Lebray. »«
De la part de ma fille ?» s'écria la forte femme. « Est-ce qu'elle serait malade ?»«
Oui, madame, » répondit Jeanne.
« Depuis quand ?»«
Depuis 15 jours. »«
Et c'est au bout de 15 jours que Monsieur Lebray songe à me faire avertir ?»
reprit Madame Lebel avec amertume et colère.
« Ce n'est pas lui qui m'envoie, madame. »
« Alors c'est ma fille ?»«
Oui, madame. »
« Elle sait bien qu'ayant été chassée de chez elle par son mari, je n'y remettrai jamais les pieds. »
« Madame Lebray est gravement atteinte, très gravement. »
« Fût-elle à l'article de la mort, ce qu'à Dieu ne plaise, je n'irai pas m'exposer à être insultée dans une maison où j'ai apporté la fortune. Ma fille sait cela à merveille, et je m'étonne qu'elle vous ait envoyée à l'insu de son mari. »
Elle pensait que, la voyant bien malade, vous oublieriez les discussions d'autrefois.
« Je n'oublie rien. Je n'irai chez ma fille que quand Monsieur Lebray m'y appellera lui-même, en me faisant de très humbles excuses. »
Jeanne, en entendant cette femme dont l'amour-propre froissé étouffait l'amour maternel, se sentait le cœur serré. Elle voulut hasarder quelques mots. Madame Lebel l'arrêta.
« Tout ce que vous pourriez me dire, et rien, sera la même chose, » s'écria la vindicative créature. « Vous m'avez entendu ? Répétez à ma fille que je suis peinée de son état, mais que je ne mettrai jamais les pieds chez elle, sauf dans le cas où son mari, faisant amende honorable, m'écrirait qu'il est au regret de ses procédés odieux et qu'il me supplie d'aller voir sa femme. Voilà mon ultimatum, et je n'en changerai pas. Je ne suis point une girouette, moi. Quand j'ai dans la cervelle une chose, il faut qu'elle se fasse. Ah, mais j'ai dit. »
Jeanne baissa la tête. « C'est bien, madame, » balbutia-t-elle avec une émotion pénible. « Je m'acquitterai de votre commission. »«
J'y compte !»
Et la porteuse de pain se retira, profondément affligée, d'avoir à répéter les paroles de cette mère sans entrailles. Par le même chemin qu'elle avait pris pour venir, elle regagna la gare. 7 heures sonnaient lorsqu'elle rentra rue Dauphine. Madame Lebray attendait son retour avec l'impatience d'une femme qui croit que ses moments sont comptés et qui voudrait, avant l'heure suprême, embrasser une dernière fois ce qu'elle aime. La malade était seule dans sa chambre. La bonne veillait à la boutique, et Monsieur Lebray, estimant que pour les gens raisonnables, les affaires doivent passer avant tout, avait quitté Paris afin de conclure un important achat de farine et ne devait revenir que le lendemain, à 1 heure avancée de la soirée. Le médecin qui soignait Madame Lebray ne pensait pas qu'il restât à la pauvre femme plus de 2 jours à vivre. Quand Jeanne Fortier entra dans la chambre faiblement éclairée par la lueur tremblotante d'une veilleuse, la boulangère eut un éclair de joie dans les regards.
« Eh bien, maman Lison, vous avez vu ma mère ? »
demanda-t-elle d'une voix faible.
« Oui, madame, »
fit Jeanne avec un embarras si visible que la patronne comprit aussitôt ce qui s'était passé à la garenne de Colombes.
« Ainsi ma mère n'a point oublié ses discussions avec mon mari ? »
balbutia-t-elle.
« Ainsi elle refuse de venir me voir ? »
« Hélas, oui, madame.
Et vous lui avez dit cependant que j'étais malade, bien malade ?»«
Je le lui ai dit. »
« Que vous a-t-elle répondu ?»«
Qu'elle ne viendrait que si Monsieur Lebray lui faisait de vive voix ou par écrit des excuses et la suppliait de lui pardonner. »«
mon Dieu, gémit la pauvre femme, je ne verrai pas ma mère avant de mourir. »«
Il ne faut point vous chagriner, madame. Vous vous exagérez beaucoup votre état. » Et peut-être que monsieur ne refusera pas d'écrire à sa belle-mère.
Mon mari est absent.
Sans doute, mais il reviendra.
Demain soir seulement. Et qui sait si demain soir je serai vivante encore.
La malade tordit ses mains et de grosses larmes coulèrent sur ses joues. Jeanne la regardait le cœur serré. Peu à peu, cependant, Madame Lebray revint à un calme relatif, puis une prostration complète remplaça son agitation fébrile et elle s'endormit. Alors la porteuse de pain s'installa dans un fauteuil, et les mains jointes, les yeux fixés sur le visage de sa patronne. Elle pria. La voiture dans laquelle se trouvaient Ovide et Mademoiselle Amanda s'était arrêtée en face de la maison, portant le numéro 9 du quai Bourbon, nous l'avons dit. La jeune fille gravit lestement les 6 étages et ouvrit la porte de la chambre où Lucie travaillait avec Antoinette. « Eh bien ?» lui demanda-t-elle. « Vous êtes allée à la Garenne de Colomb ?»« Oui, et j'ai essayé la robe. »« Alors vous serez prête. »« Demain, l'heure convenue. »« Vous voyez que j'ai pris mes précautions. » Mon ami que voilà a bien voulu m'aider. Vous avez bien fait. Madame Augustine m'a chargée de vous demander si vous consentiriez à aller seule demain à la Garenne, car elle aura besoin de moi le soir pour porter des échantillons d'étoffe à une dame de Saint-Mandé. J'irai très bien seule. Vous n'aurez pas peur en suivant le sentier du chemin de fer? Pas la moindre peur. Je désire seulement que madame m'envoie dans la journée un grand carton pour le transport de la robe. Ce sera fait. Mademoiselle Amanda, sachant ce qu'elle voulait savoir, quitta les travailleuses et rejoignit son adorateur. Tandis que l'essayeuse montait chez Lucie, Ovide n'était point resté comme la première fois blotti au fond de la voiture et faisant semblant de dormir. Une des boutiques situées au rez-de-chaussée de la maison numéro 9 était un magasin de coutellerie. Ovide l'avait remarqué le jour où nous l'avons vu, déguisé en maçon, ramasser le mouchoir que Lucie venait de laisser tomber de la fenêtre où elle se trouvait avec Lucien Labrou. Voilà une boutique bien placée, se dit Soliveau. Descendant alors de voiture, il ouvrit la porte vitrée et franchit le seuil. Une dame occupait le comptoir. Elle se leva et vint à Ovide. « Que désirez-vous, monsieur ? » lui demanda-t-elle. « Je voudrais, répondit-il, un couteau de cuisine, un couteau solide, dans le genre de ceux dont les bouchers se servent pour désosser leur viande. « J'ai là ce qu'il vous faut, » fit la coutelière en prenant un objet dans la vitrine. « Voici quelque chose de très bon, que nous fabriquons nous-mêmes et dont je puis vous garantir la solidité. » Ovide regarda la lame. Elle lui parut de bonne trempe. « Combien vendez-vous cela ? » dit-il. « 2,75 francs. Les voici. Veuillez me l'envelopper. » La marchande garnit d'un bouchon la pointe acérée du couteau, l'enveloppa d'un papier très épais et le remit à l'acheteur, qui sortit et regagna sa voiture. Sans même regarder la direction que prenait son client inconnu, la coutelière inscrivit sur le registre servant de main courante un couteau de cuisine, 2,75 francs, et n'y pensa plus. Ovide était réinstallé dans le fiacre depuis 2 minutes quand Mademoiselle Amanda reparut. Le Dijonnais lui tendit galamment la main pour l'aider à monter. « Au restaurant de la Tour d'Argent, » dit-il au cocher. Puis il ajouta en s'adressant à l'essayeuse. « Savez-vous ce que vous vouliez savoir, ma poulette ?»« Oui. La robe sera prête pour demain ?»« D'autant plus prête que Lucie se fait aider par une ouvrière. Et vous serez obligée de l'accompagner demain soir ?»« Non, je lui ai compté une bourde. Je lui ai persuadée que la patronne aurait besoin de moi. Si bien qu'elle ira seule à la Garenne de Colomb. » En entendant ces mots, Ovide tressaillit. Un mauvais sourire vint à ses lèvres. La seule chose qui lui parut un obstacle sérieux à l'exécution de son projet, la présence d'Amanda auprès de Lucie, cessait d'être à craindre. La complication embarrassante disparaissant, la mise en œuvre de son plan devenait d'une merveilleuse simplicité. « Eh bien, tant mieux » s'écria-t-il. « Comme cela, nous ne changerons rien à nos habitudes. »« Nous pourrons même dîner beaucoup plus tôt, » fit Mademoiselle Amanda. « Comment cela ? » « Je dois aller demain à 5 heures porter des échantillons d'étoffe à une dame de Saint-Mandé. Si vous étiez bien gentil, vous m'accompagneriez et nous dînerions à la campagne. »« Bravo, ma poulette, c'est une idée charmante. »« Alors, vous l'acceptez ?»« Avec enthousiasme. Nous conviendrons de tout demain matin en déjeunant et je me fais une véritable fête de cette partie de campagne. » Le lendemain, à l'heure habituelle, Mademoiselle Amanda arrivait à l'atelier. Elle rendit compte à Madame Augustine de sa visite à Lucie et ajouta que la jeune ouvrière demandait qu'on lui envoyât un grand carton pour le transport de la robe. La couturière donna des ordres immédiats et le carton fut expédié. À 11h30, Amanda descendit pour déjeuner. Elle allait passer sans s'arrêter devant la loge de la concierge lorsque celle-ci lui cria « Une lettre pour vous, mademoiselle !» Amanda prit l'enveloppe que la portière lui présentait. « Ça n'est pas arrivé par la poste ?» dit-elle.
« Non, c'est un commissionnaire qui vient de la porter. »
L'essayeuse déchira l'enveloppe et déploya la feuille de papier qui ne contenait que ses lignes.
« Une anicroche, ma belle poulette. Affaire imprévue m'oblige à partir à l'instant pour Fontainebleau. Je ne serai de retour que demain matin. J'irai déjeuner avec vous. Pensez à moi, ma belle poulette, et plaignez-moi. J'embrasse vos jolies menottes. Arnold. »
Amanda froissa la lettre.
« C'est une vraie guigne, » murmura-t-elle. « Moi qui m'étais si bien promis de dîner ce soir à la Porte Jaune. »
Et l'aimable enfant fut de mauvaise humeur toute la journée. Paul Armand, ou plutôt Jacques Garot, en partant le matin pour son usine, avait prévenu Mary qu'ayant à travailler une partie de la journée et de la nuit avec un ingénieur anglais de passage à Paris, il ne rentrerait ni déjeuner ni dîner. Mary lui avait répondu en l'embrassant
« Le temps me paraîtra bien long, mais enfin, puisqu'il le faut, allons père, à demain !»
Le millionnaire quitta sa fille, se fit conduire à Courbevoie et dit à son cocher « Retournez à Paris. Je n'aurai pas besoin de vous de tout le jour. Mais, comme je resterai fort tard à l'usine où j'ai à travailler, vous viendrez me chercher. »
« À quelle heure, monsieur ? »
« Trouvez-vous à 00h30 sur le quai, en face de la grande porte. Inutile de réveiller le gardien. »
« Bien, monsieur. »
Jacques Garot entra dans un restaurant du bord de l'eau, où il mangeait quelquefois lorsque ses affaires l'appelaient de bonne heure à Courbevoie. Il y déjeuna et donna l'ordre de lui envoyer un dîner complet pour deux personnes à 6 heures précises. En arrivant à l'usine, il entra dans la loge et dit à la femme du gardien « Avez-vous vu le monsieur qui est venu me demander hier soir, un peu avant 6 heures ?»«
Oui, monsieur.
Alors, vous pourrez le reconnaître ?»«
Parfaitement.
Ce monsieur reviendra ce soir. C'est un ingénieur avec qui je travaillerai fort avant dans la nuit. » « Ni vous, ni votre mari n'aurez à veiller jusqu'à mon départ. Vous pourrez vous coucher comme d'habitude. À 5h30, vous viendrez dresser une table dans mon cabinet et mettre 2 couverts. On apportera à dîner du restaurant. » À 5h30, la femme du gardien introduisit Ovide et vint mettre le couvert. Le millionnaire alla vivement à la rencontre du bandit et, après lui avoir fait un signe imperceptible en clignant de l'œil, lui adressa la parole en anglais. Le Dijonnais comprit et répondit de même. Leur séjour à New York avait familiarisé les deux hommes avec la langue anglaise. « Tout est prêt pour rendre l'alibi indiscutable, » dit Paul Armand. « C'est ce qu'il fallait. À 6 heures, nous dînerons. All right. » L'industriel étala sur son bureau des plans de machines et les deux misérables feignirent de parler mécanique. « À quelle heure ton cocher sera-t-il ici ?» demanda Soliveau, toujours en anglais.
« À 00h30, et il attendra sur le quai. »«
C'est parfait. La petite ira-t-elle là-bas seule ou accompagnée ?»«
Seule, et les difficultés que je voulais tourner à force d'imagination se sont aplanies d'elles-mêmes. »
Le couvert était mis, la femme du gardien se retira. Ovide poursuivit en tirant de sa poche un objet dont il défit l'enveloppe et qu'il plaça sur la table.
« Que dis-tu de ceci ?»
C'était le couteau acheté dans la boutique du quai Bourbon. La lame neuve étincelait. Jacques Garot, malgré sa trempe vigoureuse de gredin émérite, ne put s'empêcher de frissonner.
« Avec ce joujou-là, on saignerait un bœuf !» continua le Dijonnais.
« Ah, ta fille va me devoir une fière chandelle !» 6 heures sonnèrent à la pendule. En ce moment, on frappa. « Entrez !» dit l'industriel. Le garçon de bureau parut, introduisant le garçon du restaurant, qui apportait le dîner dans une grande manne d'osier.
« Marchais, vous nous servirez, » commanda Paul Armand.
« Vous, » ajouta-t-il en s'adressant à l'employé du restaurant, « vous viendrez chercher tout cela demain matin. » Les deux hommes s'attablèrent et continuèrent la conversation en anglais. Le dîner fut court.
« Dois-je desservir ?» demanda Marchais.
« Inutile, laissez tout ainsi, et apportez-nous des lampes, car nous avons à travailler immédiatement. » À 7 heures, les ouvriers et les employés quittaient l'usine. Marchais vint s'informer si le patron avait encore besoin de lui.
« Non, mon garçon, » répondit Paul Armand, « vous pouvez vous retirer. Donnez la consigne au gardien de ne me déranger sous aucun prétexte, et répétez-lui qu'il pourra se mettre au lit à son heure habituelle. »
Le garçon de bureau se retira. Un quart d'heure après, tout était calme dans l'usine. Les deux hommes entendirent le gardien faire sa ronde. « Le moment approche, » dit le millionnaire à son complice. « C'est juste, faut se mettre en mesure. Passe-moi la valise que je t'ai confiée hier. » Paul ouvrit le placard, donna la valise, et le Dijonnais commença son travestissement. Au bout de 5 minutes, il se tourna vers son ex-associé, qui, les tempes mouillées d'une sueur froide, l'avait regardé faire sans prononcer un mot.
« Agnini, c'est fini !» lui dit-il.
« Mets mes frusques en lieu sûr, je les reprendrai en revenant. Et maintenant, conduis-moi à la porte dont tu m'as parlé. » Toujours sans mot dire, le millionnaire prit une clé dans son tiroir et fit signe à Ovid de le suivre. Sur le seuil de la cour extérieure, les deux hommes s'arrêtèrent. L'obscurité était complète. Pas une étoile ne brillait au ciel chargé de nuages, et la lune ne devait se lever que plus tard. Jacques Garot jeta un coup d'œil autour de lui dans les ténèbres et prêta l'oreille. Un silence absolu régnait. « Viens !» fit le millionnaire en prenant Ovid par la main, et il l'entraîna. Ensemble, ils longèrent la muraille jusqu'à un couloir conduisant à une seconde cour encombrée de poutres, de planches et de matériaux de toutes sortes. Ils la traversèrent en silence et Jacques Garot fit halte devant une petite porte. « C'est là !» murmura-t-il en cherchant à tâtons l'orifice de la serrure. La porte s'ouvrit. « Voici la clé !» ajouta le père de Mary. « Prends à droite. Dans 5 minutes, tu seras sur la route de la Garenne de Colombes. » Ovid prit la clé, s'élança au dehors et fila comme un lièvre au milieu de l'obscurité. Au loin, l'horloge du clocher de Courbevoie sonnait 8 heures. À cette minute précise, Lucie montait à la gare Saint-Lazare dans le train prêt à partir. Portant le grand carton qui contenait la robe de bal, elle avait pris un ticket de première afin d'être plus à l'aise, et en effet, elle se trouva seule. Bientôt, elle descendit à Bois-Colombes et s'engagea dans la route qu'elle avait suivie la veille. Quelques personnes revenant de Paris firent côte à côte avec elle une partie du chemin. Lucie marchait d'un pas rapide. Il n'était pas assez tard pour qu'elle eût peur. Ce fut seulement en se trouvant seule, dans la plaine, qu'elle jeta autour d'elle un regard où se lisait un commencement d'inquiétude, vague encore et mal définie. On entendait le bruit des voitures passant sur la route et la voix des gens causant de l'autre côté du chemin de fer. La jeune fille ne se sentait pas encore tout à fait isolée. Au moment où elle allait atteindre le bouquet de peupliers, entouré de broussailles, où elle avait vu la veille un paysan couché et paraissant dormir, Ovid venait d'y arriver. Le bruit léger des pas de Lucie frappa son oreille, en même temps que celui de la marche d'une autre personne, suivant le même chemin, mais marchant en sens inverse. Quoique protégé presque suffisamment par les ténèbres, il se hâta de s'accroupir derrière une touffe d'arbustes. Lucie croisa le voyageur qui passa sans lui adresser la parole. Ovid, malgré l'obscurité, la reconnut, ou plutôt la devina, au carton qu'elle portait à la main. Les pas s'éloignèrent des deux côtés. « J'ai maintenant pas mal de temps à attendre, » murmura le bandit. « Il s'agit de prendre mes aises le mieux possible. » Il se glissa sous les branchages, se fit une place dans le fourré, tout près du sentier, s'assit sur un mouchoir déplié, alluma une pipe, et le regard attentif, l'oreille au guet, il s'arma de patience. Lucie atteignit sans encombre le but de sa course. Appelée par monsieur, gourmandée par madame, les domestiques ne savaient auquel entendre. La femme de chambre s'empressa d'annoncer l'arrivée de la couturière. Madame la mairesse, qui, depuis 1 heure déjà, tempêtait de ne pas voir apparaître sa robe, s'écria « Ah, enfin ! Ce n'est pas malheureux !» Elle donna l'ordre de faire entrer la jeune fille et lui demanda vivement « Eh bien, mademoiselle, est-ce fini ?»«
Oui, madame. »
« Et réussi ?»«
Je le crois. »
« J'attends le coiffeur. Il ne peut tarder. Nous essaierons dès qu'il m'aura coiffée. » Lucie, en venant, comptait sur tous les petits ennuis possibles. Aussi d'avance, elle était résignée.
« Comme madame voudra, » dit-elle.
Le coiffeur fit son entrée. Il ne mit pas moins de 3 quarts d'heure à accommoder madame, qui ne trouvait rien de bien. Enfin arriva le tour de Lucie. La robe de bal fut tirée du carton où elle était délicatement étendue, et après l'avoir examiné sous toutes ses faces, Madame la mairesse donna l'ordre de l'en revêtir. Cette robe, faite en si peu de temps, était véritablement une œuvre d'art. Elle allait à merveille et l'invité du préfet de la Seine ne fit point difficulté d'en convenir. Cependant, il fallait retoucher quelque chose au corsage. Malgré l'extrême habileté de l'ouvrière, cette retouche prit 20 minutes. Il restait ensuite à poser des guirlandes de fleurs naturelles, et ce n'était pas une mince besogne. Lucie poussa un nouveau soupir de résignation et se mit à l'œuvre. Nous la laisserons travailler et nous retournerons à Paris, à la boulangerie de la rue Dauphine. Il était 9 heures du soir. La bonne de Madame Lebray était allée chez le pharmacien chercher une potion ordonnée par le docteur pour la malade, dont l'état s'aggravait de plus en plus. Maman Lison gardait la boutique en attendant le retour de la servante et l'arrivée de Monsieur Lebray. À 9h10, celui-ci apparut. C'était un grand gaillard à front bas, dont la physionomie très médiocrement intelligente annonçait l'entêtement et la cupidité. « Comment va la bourgeoise, Maman Lison ? » demanda-t-il en entrant.
« Bien mal, Monsieur Lebray, » répondit la porteuse de pain. « Depuis 2 heures, elle s'inquiète à chaque instant si vous êtes revenu. Elle a à vous parler.
Je vais la voir tout de suite. » Et en effet, Lebray monta près de sa femme, qui attendait son retour avec une fiévreuse impatience. En le voyant, elle lui tendit la main. Lebray prit cette main et la serra entre les siennes. La maladie avait fait depuis la veille de terribles ravages. En constatant du premier regard l'empreinte de la mort sur ce pâle visage, le boulanger, quoiqu'il ne fût point de nature tendre, sentit son cœur se serrer.
« Eh bien, ça ne va donc pas mieux, ma pauvre amie ? » fit-il non sans attendrissement.
« Ça va bien mal, bien mal, »
répondit Madame Lebray d'une voix presque inintelligible tant elle était faible.
« C'est fini, je vais mourir. »
Les larmes montèrent aux yeux du mari.
« allons donc, » répliqua-t-il. « Qu'est-ce que ça signifie, ces idées-là ? »
En parlant ainsi, il pensait « Elle a raison, je la crois perdue. »«
Je vais mourir, » répéta Madame Lebray. « Je le sens, va. Je vais te quitter, mon ami. Te quitter pour toujours. Et c'est cruel, car je t'aimais bien. Avant de mourir, je voudrais te demander quelque chose. »«
Quoi ? Parle vite, tout ce que tu voudras. »«
Tout ? Est-ce bien vrai ? » ?»«
Si tu en doutais, ce serait mal. »
« Eh bien, je voudrais voir ma mère. »
Lebray tressauta.
« Ta mère ? »
balbutia-t-il.
« Oui, je sais qu'elle a eu beaucoup de tort envers toi, » reprit la mourante. « Mais tu en as eu aussi. Tu en as eu autant qu'elle. Plus qu'elle, peut-être. D'ailleurs, que t'importe cela ? Tu ne voudras pas me laisser mourir sans voir ma mère ? Après toi, je n'ai qu'elle au monde. Et ça me crèverait le cœur de partir sans l'avoir revue.
Elle ne consentira jamais à venir, répliqua le boulanger. Jamais, jamais, je la connais bien.